Vogue le navire. Une émission réalisée et présentée par Sylvie Caquet. Et Vogue le navire, une émission de l'Agence régionale du spectacle vivant.
Bonjour à tous. Il suffit d'entendre chanter une fois un chant d'Hildegard von Bingen pour être fasciné à jamais par cette abbesse allemande du XIIe siècle qui fut simultanément médecin, linguiste, conseillère de l'empereur Frédéric Barberousse, poétesse et musicienne. Un génie qui touchait à l'universalité en somme. Hildegard, habitée par des visions célestes, composait pour ses moniales des chants inspirés du divin, des symphonies, mais aussi des pièces liturgiques conçues autour de ses propres poèmes et destinées à être chantées lors des offices du couvent. Si l'on replaçait Hildegard von Bingen dans l'histoire de la musique, on pourrait dire qu'elle est certainement la première compositrice européenne. 9 siècles après sa création, la soprano Fabienne Cellier-Trigel, directrice artistique de la compagnie Voix de Nice, nous invite à redécouvrir l'œuvre musicale d'Hildegard von Bingen et sa vie à travers le projet intitulé « A cappella autour d'Hildegard von Bingen » qui sera présenté au public à l'automne à Saint-Sauveur-de-Nice et sur Gers en Charente-Maritime. En attendant, Fabienne Cellier-Trigel travaille en résidence sa création, à la fois chantée et contée, avec deux complices, la chanteuse Catherine Schroeder, spécialiste de la musique médiévale et du répertoire d'Hildegard, le metteur en scène Jean-Luc Pérignac, auquel s'est joint l'auteur Colette Moreau. Un spectacle qui vient témoigner qu'Hildegard von Bingen semble bien vivante à l'orée de ce millénaire et que ses visions continuent d'interpeller autant que fasciner. Fabienne Cellier-Trigel est l'invitée des Vogue le navire cette semaine. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Vous êtes venue avec Catherine Schroeder. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Avec Jean-Luc Pérignac. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Et puis avec Colette Moreau. Bonjour Colette.
Bonjour.
Fabienne Cellier-Trigel, le spectacle que vous préparez est une invitation à découvrir une femme d'exception, Hildegard von Bingen, une femme intelligente, cultivée, généreuse et qui a illuminé son époque.
Oui, c'est vraiment une très belle rencontre d'avoir découvert donc cette femme et donc de s'entourer de personnes qui également amènent un regard émerveillé et nouveau sur cette personne qui est donc Colette et Jean-Luc et Catherine dans ce travail que nous faisons depuis 15 jours autour de cet auteur.
Alors vous êtes musicienne, mais j'imagine que chanter Hildegard von Bingen vous a amené à vouloir en savoir plus un petit peu sur sa vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Donc elle était curieuse de tout, elle s'intéressait à la médecine, à la botanique, à la musique bien sûr.
Oui, elle a de nombreuses facettes, elle est connue donc sur de plusieurs plans au niveau de la naturopathie. Au niveau donc politique, elle a eu un rôle fondamental, et puis au XIIe siècle, de conseillère, et également donc dans le rôle en fait de l'homme dans le cosmos et une notion d'écologie, parce que l'homme est donc responsable de ses actes par rapport à la Terre. Donc ça, c'est une vision qui est toujours d'actualité. Et dans ce cadre-là, il doit faire attention à la terre où il vit. Il doit aussi la respecter et puis un peu la diviniser, lui rendre le rapport au divin. Et en même temps, pour entrer en harmonie avec cette terre, il peut se soigner avec ce qu'elle présente, donc les pierres, les plantes, tout ce que peut apporter cette terre qui peut aussi le mettre en harmonie avec lui-même.
Elle avait des visions prophétiques hein, qui se sont avérées véridiques après coup et qui lui ont fait rencontrer l'empereur Frédéric Barberousse et puis le pape Eugène III. Mais surtout, en fait, ça a eu des résonances qu'on découvre encore aujourd'hui.
Oui, justement, donc c'est des... C'est quelque part prophétique, mais c'est surtout aussi des notions, hein, des grandes notions qui sont toujours à l'heure actuelle, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du respect donc de la terre, par exemple, et du respect de l'homme et de l'harmonie sur terre, et sur l'amour qu'on doit porter à tout, en fait. Et donc, elle a été, c'était une personne noble et qui a eu un poids politique de conseillère, en fait, hein, même avec Aliénor d'Aquitaine.
Et puis, donc, elle consignait ses visions, en quelque sorte, dans des ouvrages. Donc, il y a trois livres qui sont parvenus jusqu'à nous. Hein. J'imagine que Colette Moreau, vous avez travaillé à partir de ces livres-là, et puis d'autres, d'autres sujets.
J'ai travaillé surtout à partir des traductions, parce que je ne suis pas érudit et je ne pouvais pas directement travailler sur le texte d'Hildegarde. Mais j'ai essayé de ne pas trahir sa pensée. Je me suis mise modestement dans ses pas.
À cause de quoi ? À cause de la langue employée
Tout à fait. Ça, j'étais incapable, très modestement, de lire directement dans le texte. Ça, c'est évident. Mais j'ai été également fascinée par la personnalité d'Hildegarde et par l'approche poétique qu'elle a du monde, l'approche symboliste qu'elle a du monde. Et œcuménique également, je trouve. Donc c'est pour ça qu'elle m'a séduite.
On parlait de langue, il faut dire qu'elle a inventé un langage avec son propre vocabulaire.
Oui, c'était une expérience intéressante, oui, bien avant l'espéranto. elle initiait quelque part une idée intéressante, à savoir une même langue pour tout le monde. C'est également, là encore, elle était visionnaire.
Catherine Schroeder, donc vous êtes une spécialiste du répertoire d'Hildegarde, donc vous intéressez plus à Hildegarde en tant que musicienne, et vous vous êtes penchée aussi sur les aspects de sa vie.
Oh oui, également, parce que c'est justement cette dimension est vraiment étonnante, et son œuvre musicale et poétique, évidemment, puisqu'elle écrivait les paroles en latin, et elle composait, enfin elle chantait, et c'était retranscrit par des moines. On pensait que c'était spécialement un moine. Et donc elle a une dimension enfin elle connaît la nature, elle aime la nature. Elle a cette notion de viridité, ce terme viride qu'elle donne très souvent dans ses chants. Et c'est ce thème qui m'a beaucoup attachée, parce que c'est l'énergie qui est dans les plantes et qui nous traverse également, qui est un petit peu la spiritualité qui nous anime. Et cette notion est très très belle et très 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 poétique, voilà.
C'est une notion qu'on va retrouver dans le spectacle.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui.
Et vous, Jean-Luc, de votre côté, est-ce que, avant de rencontrer toutes ces dames, vous connaissiez Hildegarde von Bingen ?
Non, je connaissais pas du tout. C'est Fabienne qui m'a fait découvrir. La première fois, je me souviens qu'on a parlé d'Hildegarde. Je lui ai dit que ça me paraissait très important, parce que je pense qu'en effet, Catherine, tu parlais de spiritualité, je crois qu'on a énormément besoin de ça, de spiritualité, dans le monde et donc dans le travail artistique aussi. Donc, très vite, quand Fabienne m'en a parlé, je lui ai dit, écoute, je crois que c'est important d'aller vers de tels sujets. Et puis après, j'ai un peu découvert l'univers d'Hildegarde, et je suis encore en découverte, voilà.
Une découverte qui ne cessera jamais, certainement. Je vous propose que nous fassions connaissance avec Hildegarde, la musicienne, et pour cela, nous allons commencer par écouter de la musique écrite par elle et chantée par Fabienne. Fabienne, vous êtes venue avec plusieurs extraits de ces chants que vous avez chantés.
Voilà, donc c'est des extraits qui sont pris lors de nos répétitions, donc c'est des étape de travail, hein, quelque part. Et on va commencer par Offrandes Virga. Aux branches verdoyantes, tu tiens dans ta noblesse comme l'aurore qui se lève. Réjouis-toi à présent et exulte, et daigne libérer les faibles que nous sommes de l'habitude du mal, et tends ta main pour nous relever.
Et puis on achètera avec un deuxième morceau.
Caritas abundat, qui est un chant sur l'amour. L'amour inonde toute chose du fond de l'abîme jusqu'aux plus hautes étoiles, chérissant toute chose, car il a donné au roi suprême un baiser de paix.
Vogue le navire.
Offrendens suivi de Caritas Abundat. C'était Fabienne de Sellier-Trigger, la soprano, qui chantait Hildegard von Bingen. Les chanteuses Fabienne Sellier-Trigger et Catherine Schroeder, le metteur en scène Jean-Luc Pérignac et l'auteur Colette Moreau sont les invités des Vogue le navire pour nous parler d'un spectacle dédié à cette grande musicienne du XIIe siècle que fut Hildegard von Bingen. Fabienne de Sellier-Trigger, on vient de parler d'Hildegarde dans toutes les facettes de son talent. Elle composa aussi une œuvre musicale immense que l'on redécouvre aujourd'hui grâce à vous. Et puis aussi grâce à Catherine Schroeder. Catherine, c'est vous qui avez passé cette passion à Fabienne, je crois bien.
Oui, Fabienne était mon élève, comme souvent. J'ai des élèves qui, après, je ne sais pas jusqu'où elles vont aller. En tout cas, ça fait très, très plaisir. Et cette transmission, justement, et le retour de m'inviter, de travailler avec elle et de participer aussi dans le spectacle à certains moments.
Il faut dire que vous êtes enseignante au Centre de musique médiévale de Paris, dispense donc un enseignement sur les pratiques musicales anciennes, et puis que vous, donc, vous animez un atelier de découverte du chant médiéval.
Atelier de découverte chant médiéval qui est assez général, et aussi des cours spécifiquement sur Hildegarde, des stages et des cours durant toute l'année.
Voilà, et c'est là que Fabienne est venue se former.
Voilà. Ensuite, comme elle était passionnée, elle a bénéficié de certains cours particuliers, donc plus encore spécifiquement plus serré, plus vraiment bon, détaillé, avec toute la finesse des neumes, car c'est écrit en neumes. On essaye de travailler sur le facsimilé, ce qui donne tout à fait autre chose. Quand on lit les notes, la transcription est en notes carrées.
Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas en fait des notes de musique comme on trouve aujourd'hui dans les partitions. Oui, ces notes de musique, on les appelle des neumes, et elles ont un autre aspect.
Oui, au point de vue de la dynamique, ça donne tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus proche du geste vocal. C'est plutôt comme une sorte de calligraphie. Et cette calligraphie nous aide et nous fait entrer dans le phrasé, qui est beaucoup plus musical, plus intéressant.
Vous trouvez que c'est plus adapté à la notation d'aujourd'hui.
Ça donne beaucoup plus de musicalité, ça permet plus de musicalité.
Vous, de votre côté, vous faites partie de l'ensemble Discantus, dirigé par Brigitte Laine, qui fait revivre les musiques sacrées du Moyen-Âge à la Renaissance. Et puis, vous avez enregistré un album sur Hildegarde avec Discantus, et puis aussi en solo.
Voilà. La collégiale de Champeaux, qui est un lieu magique. Et ce disque, maintenant, c'est sûr que je peux le bon, c'est un aboutissement à un certain moment. Et puis, bon, il me sert pour donner le maximum à mes élèves et dans l'enseignement.
Voilà, vous dites ça parce que c'est un album que vous avez enregistré en 98,
c'est pas c'est ça.
Mais bon, voilà, qui ne vieillit pas.
Et mais il y a des étapes. Et, par exemple, au niveau de la prononciation, justement, j'ai un petit peu évolué dans un sens plus. Je colle plus à la prononciation allemande. Je trouve que ça donne plus de sève. Et donc, ça a changé un petit peu. Il y a des choses qui ont changé, puis d'autres qui sont, bon, qui donnent le maximum de ce qu'on peut donner.
La musique d'Hildegarde est différente de celles qui sont chantées à l'époque où elle vivait.
Oui, évidemment, c'est sorti d'une sorte de la lignée du grégorien, mais il y a une inspiration, il y a un lyrisme, il y a une poésie aussi dans la musique et dans la musicalité. Et il y a une chose très intéressante qui est dans la musique elle-même, il y a quand même une sorte de mouvement un peu en spirale. Il y a un mouvement qui transporte les gens et ceux qui le chantent et ceux qui l'écoutent aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique à Hildegarde. C'est un peu une musique des sphères. Quand vous disiez qu'elle avait fait des symphonies, c'est pas vraiment des symphonies, c'est symphonie.
Oui, qu'on traduit abusivement par symphonie.
Voilà. Donc c'est un petit peu le chant des sphères célestes. Et elle nous donne cette énergie. Et ça, c'est très, très spécial à Hildegarde. C'est vraiment quelque chose de spécifique.
Mais déjà, dans la partition, la façon qu'elle avait de noter la musique lui appartient qu'à elle. On voit des petites choses qui ressemblent à rien de ce qu'on a vu.
Oui, ça, ce sont les nœuds. De toute façon, c'est un univers fascinant.
Elle avait eu quand même une notation bien à elle.
Oui, enfin, les nœuds, vous savez, c'est dans le grégorien, c'est extrêmement raffiné et ça s'est déjà perdu un tout petit peu avec elle. Donc, il y avait les nœuds, mais c'était sur les lignes. Donc, pour nous, c'est plus facile à lire, beaucoup plus facile. Alors que le grégorien n'a pas de ligne, il fallait connaître la mélodie par cœur. Et dans le grégorien, c'est encore beaucoup plus raffiné. On sait très bien là où il y a une longue, une note rapide. Donc avec Hildegarde, on a en fait plus de liberté. Mais cette liberté, il faut faire attention justement. C'est pour ça qu'il y a eu des enregistrements un petit peu, un petit peu fou, allant jusqu'à la musique techno. Beaucoup de gens se sont appropriés le Desgardes parce que forcément c'est fascinant, c'est un peu new age, un peu musique planante. Et bon, on essaye de pas tomber dans ce créneau-là et rester vraiment dans l'authenticité des. Mais il y a une certaine liberté, il y a des nœuds qu'on va pouvoir faire plus rapides, plus lents, ça dépend des. C'est un choix. Il y a un choix musical qui est très important chez le Desgardes. Donc, justement, il y a une frontière à ne pas dépasser.
Et vous, ce que vous souhaitez, c'est en fait chanter Île de Garde comme elle chantait à l'époque ?
Et on essaye d'être le plus près possible du manuscrit, justement. Et aussi par rapport au mode, par rapport à l'esprit, par rapport. Bon, c'est une science, c'est le chant a cappella et le chant donc sans accompagnement. Ça demande il faut un peu une connaissance du chant traditionnel, un peu de tous les. Bon, moi j'ai fait du chant indien par exemple.
Ça vous a aidé ?
Carnatique, oui, avec en travaillant le voix de poitrine, et puis du chant persan aussi, qui donne certaines choses dans la voix, ce qu'on appelle les répercussions, qui sont dans le grégorien aussi. Il y a cette façon de faire qui, bon, on peut développer d'une certaine. Il y a des pistes. C'est notre grand maître Dominique Vélard qui nous avait donné des indications pour cette interprétation-là. Et c'est tout un travail sur le chant monodique qui est très, très passionnant.
Fabienne Cellier-Trigel, vous, à l'origine, vous êtes une chanteuse lyrique.
Oui.
Et donc aujourd'hui, hein, vous avez élargi votre palette, ce que vous chantez, du chant médiéval et puis spécifiquement du chant du XIIe siècle, vous chantez Hildegard von Bingen. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pratique-là ?
C'est par rapport à la voix comme un peu une source, par rapport aux lyriques, c'est je pense une première source pour nourrir sa voix. Il y a déjà plusieurs années que j'avais travaillé le chant grégorien avec Anne-Marie Deschamps, et donc dans cette lignée un peu qu'on parlait de Dominique Vélard, dans cette lignée du rapport entre le geste et la voix, entre l'énergie et la voix, c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé et apporté énormément. Et donc on a développé un concert déjà qui s'appelait A Cappella, c'est pour ça que ça, c'est une suite de ce qu'on a fait, qui alternait du chant grégorien et des complaintes traditionnelles qui sont chantées et comptées. Voilà. Pour amener un petit peu un passage ludique par rapport au public et en même temps un lien entre le chant grégorien et ces complaintes traditionnelles qui ont souvent été écrites sur des chants grégoriens qui ont été entendus pendant la messe et qui sont rechantés. Et quelque part, peut-être que le rapport aussi au lyrique, c'est aussi quand même quelque part revenir à une source beaucoup plus pure, où il va y avoir une écoute un peu très extrême, hein, comme on a parlé sur les détails, ça va vraiment être une broderie et une éducation de l'oreille, et qui va vraiment aussi enrichir tout le répertoire lyrique, hein, pour quelque chose de plus en plus précis et plus en plus lié à la source et à l'énergie.
Alors, on va écouter de nouveau Hildegard von Bingen, cette fois-ci chantée par Catherine Schroeder. Vous nous proposez donc un extrait de ce fameux CD dont oui. On a parlé à l'instant.
Donc, cette pièce s'appelle O Quam Preciosa. Et voilà, c'est une très belle pièce.
Oh, preciosa.
Le navire.
La mezzo-soprano Catherine Schroeder qui interprétait Hildegard von Bingen, un chant au quam preciosa. Et Vogue le navire reçoit cette semaine les chanteuses Fabienne Cellier-Trigel et Catherine Schroeder, le metteur en scène Jean-Luc Pérignac ainsi que l'auteur Colette Moreau pour nous parler d'un spectacle dédié à une femme d'exception qui vécut au XIIe siècle, Hildegard von Bingen. Hildegard a beaucoup écrit. Elle a beaucoup écrit de chants, 77 au total, ces fameux symphoniers qu'on n'a pas le droit de traduire par symphonie parce que c'est pas la même chose. Je regarde Catherine.
C'est ça. C'est les chants de l'harmonie céleste. Ce ne sont pas encore des symphonies, c'est par la suite. Ça a été appelé symphonie, c'est symphonie avec des instruments. Mais à son époque, ça voulait dire chant. C'est les chants de l'harmonie céleste.
On a retrouvé toutes ces partitions. Il n'y en a pas une de cachée quelque part
Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a un recueil donc de 77 chants, plus une sorte de jeu liturgique qu'elle appelait Ordo Virtutum, qui est l'ordre des vertus, où les vertus dont la plus haute est la caritas, et dans la plus haute c'est il y a les générosités, toutes les vertus sont là et elles sont fortement dérangées par le diable qui les interrompt dans leur chant et qui lui ne chante pas mais parle. Donc c'est assez très intéressant, mais c'est pas facile à monter parce qu'il faut quand même beaucoup de personnages. Mais ça a été monté justement par l'ensemble Sequentia. Une très belle œuvre, très intéressante.
Beaucoup de musique et puis également, elle a écrit des ouvrages médicaux, beaucoup de poésie. Colette Moreau, donc vous avez travaillé à partir de quelle matière pour le spectacle ?
Alors, je suis partie, j'ai essayé, comme je vous l'ai dit précédemment, de me mettre modestement dans ses pas. Et d'essayer de cerner au plus près sa vision du monde, et en particulier justement cette recherche d'harmonie qui me paraît essentielle aujourd'hui. Et en quelque sorte, je crois que ce spectacle, moi je l'ai vu comme quelque chose qui voudrait transmettre un peu de la beauté de ce qu'elle, du monde tel qu'elle l'imaginait. Un spectacle qui rendrait les gens heureux, quelque part. C'est très ambitieux parce que, bon, vous avez dit, quand on écoute, déjà, on s'apaise. Et
je l'ai dit hors antenne.
Oui, et je trouve que c'est tout à fait ça. Et même lors des répétitions, moi, j'éprouve un immense bonheur à écouter les deux chanteuses répéter et à traduire l'harmonie de la musique, enfin du chant, en paroles. C'est toujours très poétique, c'est toujours très apaisé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de travailler sur Hildegard, parce que justement, elle était capable de transmettre ça aujourd'hui, et qu'on en avait énormément besoin, je pense. Et dans le spectacle, on a choisi, sur les conseils éclairés de Jean-Luc, de garder quelques remèdes, justement. Pour lui, ne pas oublier toute sa dimension très humaine, le fait qu'elle s'intéressait énormément à l'autre. Parce que c'est une personne très, très paradoxale, en ce sens que elle était enfermée dans un couvent, mais elle aimait prodigieusement le monde, elle s'intéressait aux autres. Et elle était très proche des autres. Et bon, ce n'était pas uniquement une visionnaire, c'était pas un être éthéré, loin des réalités, mais au contraire, c'était quelqu'un de complètement charnel. D'ailleurs, elle donne une place, elle accorde une place énorme au corps. Et ça, c'est très important aussi, c'est très moderne. Elle est vraiment très moderne.
Ça doit être une piste intéressante pour le metteur en scène, quelqu'un qui s'intéresse au corps. Hein. On a parlé, Jean-Luc Pérignac, beaucoup de spiritualité, beaucoup de choses qui relèvent du divin. Alors voilà, pouvoir s'ancrer dans le corps, on a là quelque chose sur lequel on peut déjà travailler.
On peut s'appuyer dessus, oui, mais de toutes les façons, la spiritualité part du corps. Pour moi, en tous les cas, dans mon travail d'accompagnant, d'acteur et de chanteur, tout part du corps. C'est grâce au corps qu'on peut arriver à atteindre une certaine spiritualité. Il y a un cadre. Et ce qui est en effet intéressant avec Hildegarde, on pointait ça ce matin avec Colette lorsque Fabienne travaillait un petit peu sur le texte, où il y a un passage, oui c'est un petit passage comme ça qui dit « Ce n'est ni l'esprit ni l'âme qui détermine ton existence, c'est ton corps. » Et donc là on a véritablement quelque chose qui est extrêmement intéressant par rapport à certains mystiques, pas tous, hein, qui ne parlent pas du corps, alors qu'en fait Hildegarde elle est beaucoup là-dedans, beaucoup dans le corps, voilà. Sachant que je placerai pas vraiment Hildegarde dans les mystiques. Bon,
c'est un débat ouvert.
Ça peut se discuter en tous les cas. Bon, voilà, on va pas. Il faudrait une autre.
Notre émission.
On pourrait penser quand même à Sainte Thérèse d'Avila, qui
on pourrait penser à Sainte Thérèse, oui.
Très 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 avait une oui, sensualité exacerbée. Oui, oui. Et on retrouve ça vraiment chez Hildegarde. Ouais, elle a le sens, ouais. Elle parle beaucoup des odeurs, ouais. Des couleurs. Ouais. Elle parle de démonial, elle dit qu'elle se mettait des fleurs dans les cheveux.
Ouais, ouais, ouais.
Elle parle aussi des instruments, qui est un petit peu parfois dans la liturgie, ça peut être le diable, parfois les instruments, alors qu'elle parle des instruments, elle parle de sons de trompette. Quand elle a ses visions, elle parle de sons d'instruments vraiment. Mm-hmm. Et il y a vraiment elle parle aussi de l'amour divin, mais de l'amour physique entre les hommes et les femmes. Elle en parle vraiment d'une façon extrêmement étonnante et une grande liberté et
surprenante.
Une grande chaleur, je dirais.
Oui. Voilà. Beaucoup de liberté, beaucoup de chaleur, oui. On peut dire ça par rapport à cette personnalité. C'est extrêmement surprenant et réconfortant et. Et enrichissant, mais je pense qu'enrichissant c'est pas suffisant. Ça met du feu. Ça met du feu dans le travail, voilà.
La virilité.
Voilà.
Et en fait, elle était très très souvent, elle parle de maladies, de souffrances.
Oui,
elle
était
très fragile.
Très fragile.
Mais en même temps, elle devait avoir une énergie incroyable parce qu'elle a énormément, physiquement, elle a beaucoup voyagé. Elle a vraiment parcouru toute l'Europe. Elle a énormément voyagé. Donc, c'est à la fois quelqu'un de très fragile, de très sensible, évidemment, mais en même temps avec une énergie fabuleuse qui fait que on a ces deux aspects. Et avec ces deux aspects, on peut vraiment travailler d'une façon artistique très profonde. On peut entrer dedans avec tout son cœur et son âme.
On va continuer à parler d'Hildegarde et puis parler plus profondément de votre création, Fabienne. Et on va marquer une troisième pause musicale avec Catherine Schroeder, un morceau au Félix Aparicio, extrait de votre CD en solo.
On peut donner le texte, je vais vous donner le texte. Ouais.
De quoi parle Hildegarde van Bingen?
Ô bienheureuse apparition, lorsqu'en l'ami de Dieu Rupert, donc c'est un saint qui est mort très très jeune, lorsqu'en l'ami de Dieu Rupert, la flamme de la vie a étincelé, Ainsi l'amour de Dieu a coulé dans son cœur, enveloppant la crainte du Seigneur. C'est pourquoi sa renommée aussi a fleuri parmi les habitants des hauteurs. Et à la fin, elle fait un grand mélisme, ses ornements magnifiques.
On vous écoute.
Le navire.
La mezzo-soprano Catherine Schroeder interprétant Ophélix Apparicio d'Hildegard von Bingen. Les chanteuses Fabienne Sellier-Trigel et Catherine Schroeder, le metteur en scène Jean-Luc Pérignac et l'auteur Colette Moreau sont les invités d'Évogue le navire pour nous parler d'un spectacle dédié à une femme d'exception qui vécut au XIIe siècle, Hildegard von Bingen. Dans votre spectacle, Fabienne Sellier-Trigel, qui sera créé en octobre 2010...
Oui.
Vous livrez votre vision d'Hildegard von Bingen.
Voilà, notre vision, tous les quatre, hein,
commune.
Bien sûr, oui, commune. Je suis aussi un peu voilà, dans leur énergie. Et aussi la vision aussi qu'on peut rencontrer dans cette création de la rencontre avec la population et le public qui viennent. Régulièrement donc, nous écouter, puisqu'on répète à l'église de Surgères. Et donc, qui permet d'avoir des échanges aussi. Donc, beaucoup de personnes connaissent en fait Hildegard et sous des aspects différents et souvent sont profondément interpellées. Donc, ce qui nous permet de riches échanges.
Il faut dire que vous êtes en résidence de création en ce moment, donc à Surgères.
Voilà, on est en création en résidence. Donc, avec l'aspect aussi de sensibiliser la population, on fait un travail aussi avec les écoles. Donc tout à l'heure, ce qui m'a interpellée, c'était le fait qu'une petite fille aussi dans une école nous a dit qu'elle ne cesserait pas d'avoir du plaisir d'écouter. En fait, elle aurait voulu que ça continue ce chant. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le calme et puis la spirale que nous emmène ce chant. Et je sais que quand je chante aussi Hildegard, j'ai pas envie de m'arrêter.
Justement, ce spectacle, il est à la fois chanté et conté. Vous êtes seule à chanter ou vous chantez également avec Catherine?
Alors donc, nous sommes partis un peu sur deux versions, quelque part. Une version où je suis seule, qui sera présentée donc, normalement le 10 octobre, devant les Allemands de la ville de Wipperfürth, qui viennent en échange de jumelage avec la ville de Surgères.
Ah oui, ils sont à Surgères.
Voilà, ils sont à Surgères. Et donc, dans le projet, ensuite, d'aller à Wipperfürth. Mais c'est malheureusement une date où Catherine est absente. Elle a un concert avec
Prise, des, malheureusement.
Donc ensuite, on finalisera donc la création avec Catherine, qui j'ai le plaisir qu'elle m'accompagne dans un certain chant, en faisant donc, Jean-Luc, tu connais bien le terme maintenant.
Bourdon.
Le bourdon et puis
l'isone.
L'isone. Voilà,
le bourdon, c'est un son continu et l'isone, c'est une façon de chanter qu'utilisent beaucoup les Byzantins, dans le chant byzantin. Et on dit le texte sur une seule note en bas, la note fondamentale, et on dit le texte et ça donne tout de suite, c'est le début de la polyphonie.
Alors, par exemple, le bourdon, faites-moi un bourdon.
Ça, c'est un bourdon, on continue. Et après, maintenant, je vais dire le texte, par exemple. O quam preciosa iud. Il y a une voix qui fait le chant et l'autre qui fait la fondamentale, mais avec les paroles. Et tout de suite, ça donne une dimension très intéressante. Ça donne le début de la polyphonie, voilà. Une amorce.
Alors, vous aviez voulu donc cette double approche, que ça soit un spectacle dans lequel on vous entende chanter et puis qu'on découvre aussi donc d'autres aspects d'Hildegarde à travers des textes.
Voilà, le côté conter et chanter, comme on avait déjà fait dans notre première création sur le chant grégorien, donc a cappella. Et c'était également à la suite d'un travail commun qu'on avait déjà eu avec Colette et Jean-Luc. C'était une commande du Pays d'Aunis en 2008. On avait travaillé sur les noms de rues et donc sur dans le pays sur les nonnes, la nonne et les lépreux, parce qu'il y avait beaucoup d'hôpitaux. Et donc Colette avait écrit déjà un texte où j'interprétais en tant que où je l'interprétais donc comme une nonne, mise en scène par Jean-Luc Pérignac, et alterné avec le Stabat Mater de Philippe Mazet, qui est un compositeur actuel, où j'ai eu la chance de chanter sous sa direction. Et donc, on avait alterné comme ça du contemporain et un texte sur cette nonne. Donc, c'est pour ça que lorsque j'ai demandé à Colette de travailler sur Hildegarde, justement, à la suite de ce travail sur les nonnes qui l'avait beaucoup marqué, elle continuait à écouter, à être dans ce chemin et à l'écouter justement du Hildegarde. Donc c'était vraiment une belle coïncidence. Voilà.
Et donc vous, Jean-Luc, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle. Il faut dire aussi que vous êtes comédien.
Oui.
Vous êtes le directeur artistique d'une compagnie qu'on connaît bien en région, qui s'appelle la compagnie Cabochard. Mm-hmm. Et donc, je pense que là, vous avez eu un double regard, à la fois le regard du metteur en scène et puis le regard du comédien, donc de la chanteuse, Catherine ou Fabienne, voilà, dans leur expression sur scène, comment elles sont.
Ouais. Moi, je travaille depuis très longtemps. J'aime beaucoup, en tous les cas, travailler avec des milieux qui sont un peu différents. C'est-à-dire pas simplement spécifiquement théâtre, mais soit des chanteurs, ça peut être des chanteurs lyriques, ça peut être des chanteurs de pop, parce que j'ai travaillé aussi avec Coup de Marron. Ça peut être des danseurs, ça peut être... Voilà, il y a cette espèce de... Quelque chose qui me fascine là-dedans, c'est comment je peux arriver à faire une passerelle entre mon métier, en fait, qui est quand même un métier plus spécifiquement de comédien et de metteur en scène de théâtre, avec d'autres approches artistiques. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me fascine toujours, qui me met en danger. Et ça, j'aime bien ça. Je pense que c'est important aussi qu'un metteur en scène se mette en danger. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le plateau, que ça soit des comédiens ou des chanteurs qui quelque part prennent une part de risque. Et souvent, il y a des metteurs en scène qui sont là et qui sont sur leur chaise et puis qui disent, bon, ben, débrouille-toi, quoi. Donc là, je suis obligé de me mettre en danger parce que je connais pas. Je connais pas l'univers du chant, ou même si je le connais un petit peu, en tous les cas, je suis pas du tout un spécialiste de ça. Donc, je suis obligé de me mettre à l'écoute et également de me mettre en danger. Et si je pense que c'est en mettant, enfin, en partageant le danger avec les gens qui sont sur le plateau, qu'il y a des choses qui vont se trouver. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Vous êtes en période de création, donc vous n'êtes peut-être pas en mesure de nous dire un petit peu quelles pistes vous allez exploiter.
Je ne vais pas exploiter de pistes. Je ne suis pas un metteur en scène qui exploite des pistes. Je vais me mettre à l'écoute, accompagner. Et je pense que dans l'accompagnement et dans le doute, on va trouver des choses. Et on a commencé déjà à trouver des choses, en fait.
Oui, on s'est déjà bien rencontré dans cette notion du silence et de l'espace, voilà, qui est fondamental. On n'a jamais assez de silence, en fait, même dans un chant, entre deux sections ou trois sections, ou dans un texte aussi. Et cette qualité de silence, c'est là, je pense qu'on touche quelque chose, on va vers...
Voilà.
Un essentiel, et on va dans le cœur du Moyen-Âge, on est dans cette église de Surgères pour l'instant, on ira après dans celle de Saint-Sauveur, que je ne connais pas encore, mais déjà l'acoustique nous donne cette puissance, cette profondeur, et le fait de pouvoir justement accepter ce silence, ça donne une grande dimension, et là on s'est vraiment retrouvé avec Jean-Luc.
Je pense que
c'est une base.
Après aussi, excuse-moi Fabienne, après je pense que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est dans quelle énergie le chant se finit, et dans quelle énergie le texte commence, et également dans quelle énergie le texte se finit, et dans quelle énergie le chant commence, puisque en fait le découpage qu'on a fait avec Colette, qui est un découpage, on a changé plusieurs fois, mais il y a vraiment du texte et des chants, et véritablement il y a une espèce de d'harmonie, enfin une tentative en tous les cas d'harmonie entre tout ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement bon, on fait des chants et puis après on fait un texte et puis voilà, c'est tout ça, ça se relie en tous les cas, et c'est ce qu'on est en train de trouver. Et en effet, comme tu dis Catherine, je pense que ça se trouve aussi beaucoup dans le silence, dans le temps, dans prendre le temps.
Alors, il faudra attendre donc l'automne pour vous découvrir sur scène. En attendant, il y a une première étape de création.
Voilà, il y a une première étape qui va être dimanche à 16h.
Dimanche 13 juin à 16h.
Voilà, il faut savoir que ce week-end, il y a une masterclass, oui, à Surgères à 16h. Donc, il y a une masterclass donnée par Catherine Schroeder avec des personnes connaissant déjà le répertoire d'Hildegarde.
Pour ceux qui voudraient vous découvrir davantage, il y a vos sites internet, voixdenis.com, et puis concert-acapella.com. On n'a pas eu le temps de parler de votre compagnie, mais elle est très active sur la région, avec vos deux ensembles, le concert acapella, et puis l'ensemble Exultate. Voilà, vous organisez des stages, des ateliers réguliers, donc des masterclass. On arrive au terme de cette émission. Je recevais les chanteuses Fabienne Célie Trigel et Catherine Schroeder, le metteur en scène Jean-Luc Pérignac et l'auteur Colette Moreau. Merci à vous quatre d'avoir répondu à mon invitation.
Merci,
au revoir.
Merci également à David à la technique. Aujourd'hui, vous pourrez réécouter cette émission et la podcaster sur le site de l'Agence régionale du spectacle vivant à l'adresse www.arsv.fr. La semaine prochaine, nous parlerons de théâtre. Je recevrai Pascal Dubois, metteur en scène de la compagnie charentaise Le Sablier. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, on va se quitter avec vous, Fabienne, qui chantait Hildegarde. Un dernier morceau.
Ocvam mirabilis. Donc c'est un peu le miracle de la vie qui est dans chaque être, c'est ça.
Quel beau message pour se quitter.